Voilà, bon, en tout cas, merci d'être venu très nombreux ce soir pour la présentation de ce livre, Trop jeune pour mourir, qu'on a fait paraître en 2014 pour le centenaire de la Grande Guerre. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'en 2014, il y a eu tout un flot éditorial très important autour de la guerre de 14 qui a été détaillé sous tous ses aspects culturels, militaires, diplomatiques, etc., etc. Mais néanmoins, il a manqué un acteur important, un aspect important de la Grande Guerre qui n'a quasiment pas été traité, c'est la question du mouvement ouvrier. Et c'est malheureusement peut-être tristement symptomatique de notre époque, parce que dans les années 50 à 70 encore, la question du mouvement ouvrier face à la guerre, c'était une question historiographique en soi, c'était un sujet d'étude en soi. Là, en 2014, rien du tout. Et du coup, ce bouquin est un des seuls qui traite de la question, et qui traite non pas sur la période 14-18, mais sur la période immédiatement précédente, celle de 1909-1914. Alors, ce livre, si vous avez l'occasion de l'ouvrir et de le bouquiner, vous verrez qu'on y trouve tout un tas de choses. C'est un ouvrage un peu baroque. D'ailleurs, je dis souvent aux gens, il ne faut pas se laisser effrayer par l'épaisseur du bouquin. On n'est pas obligé de le lire dans l'ordre chronologique exact. On peut aussi lire dans le désordre en fonction de ses centres d'intérêt. C'est-à-dire que si vous vous intéressez, par exemple, à l'anarchisme, vous allez y trouver énormément de choses inédites. Si vous vous intéressez au mouvement ouvrier, au syndicalisme, aux grèves, aux pratiques ouvrières, vous allez y trouver également beaucoup de choses. Si vous vous intéressez au féminisme, au mouvement des femmes, à ses rapports avec le mouvement ouvrier, vous y trouverez aussi plein de trucs. Si vous vous intéressez aux travailleurs migrants, si vous vous intéressez à l'antimilitarisme, à peu près tous ces aspects sont traités pour ce qui est de la France de l'époque. En fait, le bouquin, il est construit sur trois logiques qui s'interpénètrent. La première de toutes, c'est que ce livre, comme je vous le disais, c'est un peu un panorama du mouvement ouvrier de l'époque. Et bon, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert. C'est absolument fascinant, passionnant de découvrir la diversité, le foisonnement de ce qu'était le mouvement ouvrier de l'époque et dans quelle mesure c'était véritablement une contre-société, avec toute la diversité de ses organisations politiques, syndicales, sociales, ses coopératives ouvrières de production, de distribution, ses groupes culturels, ses groupes de chansonniers, ses organisations, ses ligues de ménagères, ses ligues de locataires, etc. Toute cette galaxie gravitant autour de la CGT. Et puis tous les débats et toutes les controverses hein, qui animent ce mouvement ouvrier, qui en font vraiment quelque chose d'à part, quoi, quelque chose d'un organisme vraiment vivant, quoi, une contre-société. Donc ça, c'est la première logique qui guide le bouquin. La deuxième, c'est de raconter quelque chose qui est complètement oublié, franchement, aujourd'hui, c'est ce qu'a été la montée vers la guerre en France à cette époque. La montée vers la guerre avec l'ensemble des lois militaristes, liberticides, la montée du nationalisme, tout ça dans un climat de réaction et de répression qu'on a vraiment peine à imaginer aujourd'hui. Et ça vaut vraiment le coup de découvrir ça aussi. Et enfin, la troisième logique, c'est que ce livre raconte une histoire qui n'avait jamais été racontée jusqu'ici, et qui est l'histoire de la toute première organisation libertaire en France, qui s'appelait la Fédération communiste anarchiste. Et cette histoire n'avait jamais été racontée, et ça a été d'ailleurs même le point de départ de mon travail de vouloir raconter cette histoire. Le reste est venu un peu s'ajouter en arrière-plan. Et l'histoire de la FCA donc constitue un petit peu le fil rouge du bouquin. Donc voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de façons de l'approcher, mais ce soir, pour vous le présenter, j'ai choisi un angle précis qui porte sur la question de l'opposition à la guerre et de ce qu'a fait le mouvement ouvrier révolutionnaire. En posant la question suivante, vous savez sans doute que en juillet 1914, le mouvement ouvrier français, le mouvement révolutionnaire, s'est trouvé dans l'incapacité d'agir, dans l'impuissance à s'opposer à la guerre. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi, alors que dans des conditions, dans des situations de crise européenne analogue, avec une menace de guerre tout aussi grave, À l'été 1911 et à l'automne 1912, le mouvement ouvrier français avait au contraire réagi avec beaucoup de vigueur et beaucoup de courage. Pourquoi est-ce qu'en juillet 14, il échoue totalement à le faire? Voilà, la question que je pose, et je vais m'efforcer d'y répondre. Alors, on pense généralement que, on croit hein, généralement que la CGT française avait promis d'appeler à la grève générale pour s'opposer à la guerre en cas de déclaration de guerre. Et que donc, en juillet 14, elle aurait failli à cette promesse, elle aurait trahi cette promesse. En fait, c'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça, c'est un peu plus compliqué. La CGT, en réalité, ayant conscience de ses propres limites, n'avait jamais promis d'appeler à la grève générale. Lors de son congrès confédéral de Marseille, en 1908, elle avait adopté un texte qui disait en substance ceci. Le rôle de la CGT et des syndicats, de ces syndicats, c'est de faire l'instruction des travailleurs au plan national et international de façon à ce que, au jour d'une déclaration de guerre, les travailleurs y répondent par la grève générale révolutionnaire. C'est textos ce qui a été voté. Alors, quand on lit cette motion, ce texte de 1908, on peut certes se dire que c'est un texte équivoque. C'est quelque chose qui va permettre de se dédouaner à la dernière minute, puisque la CGT ne se donne aucune obligation. Elle se donne juste l'obligation de faire la propagande antimilitariste et antipatriote de façon à ce que, au jour J, le mouvement parte spontanément de la base. Ça peut être une façon de se dédouaner à la dernière minute en disant « on n'a pas de responsabilité là-dedans, c'est la base qui doit s'exprimer ». Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Vous le verrez, en juillet 14, au moment crucial, à l'heure H, la CGT reculera, n'appellera pas la grève générale en disant « on ne se trahit pas, de toute façon le mouvement doit partir de la base ». Cependant, c'est plus compliqué que ça, là encore. Ce texte, en réalité, faisait largement consensus entre la direction confédérale de la CGT et la gauche de la CGT. Et quand je parle de la gauche de la CGT, je veux parler des syndicats qui étaient animés par les anarchistes ou par des gens qui n'étaient pas à proprement parler anarchistes, mais qui fonctionnaient en quasi-osmose et que je qualifie de syndicalistes révolutionnaires ultra. Il y avait consensus donc sur ce texte parce que la gauche de la CGT savait que de toute façon, si jamais on arrivait à une déclaration de guerre ou à la veille d'une déclaration de guerre, la première chose que ferait le gouvernement français serait de décapiter l'organisation syndicale. Il ne fallait donc pas habituer les travailleurs à attendre le mot d'ordre venu d'en haut, il fallait habituer les travailleurs à agir par eux-mêmes. Et dans ce cadre, cette motion de 1908 de la CGT leur donnait toute latitude pour faire la propagande antimilitariste, antipatriote, telle qu'ils l'entendaient. Alors on verra que par la suite, 5 ans plus tard, il y a eu parfois des divergences sur la nature en fait, de cette propagande antimilitariste, antipatriote. Mais en tout cas, le cadre était là et il y avait toute latitude pour le faire. Alors, la stratégie de la grève générale pour s'opposer à la guerre, c'était en tout cas la grève générale. D'où venait cette idée? Cette idée venait de la Première Internationale. Lors d'un de ses congrès, en 1868, la Première Internationale avait adopté une motion qui disait pour s'opposer aux guerres entre nations, entre États rivaux, les travailleurs doivent s'y opposer en croisant les bras, par la grève générale. Alors cette orientation avait été totalement impuissante à s'opposer, par exemple, à la guerre franco-allemande de 1870, mais de toute façon, la Première Internationale n'était pas vraiment une organisation opérationnelle, c'était davantage un incubateur théorique, si vous voulez. Néanmoins, cette orientation de la grève générale contre la guerre était restée gravée dans le marbre, et par la suite, dans les congrès ouvriers des années 1880-90, elle était régulièrement brandie, mais si vous voulez, de façon un peu rituelle, quoi, comme quelque chose qui permet de s'inscrire dans une glorieuse tradition, mais sans qu'on songe à le mettre réellement en application, parce qu'on n'a pas les moyens. Les choses changent au tournant du XXe siècle, pour deux raisons. D'abord parce que, au tournant du XXe siècle, le mouvement ouvrier français commence à être pas mal reconstruit. Après la grande saignée de la Commune de Paris, il s'est reconstruit peu à peu. La CGT a été fondée en 1895, Et la Fédération des Bourses du Travail a été fondée en 1892. Donc au tournant du XXe siècle, on commence à avoir un peu plus les moyens déjà de mettre en branle les masses ouvrières. La deuxième raison, c'est qu'au tournant du XXe siècle, il y a des menaces de guerre directes entre la France et la Grande-Bretagne, à cause de rivalités coloniales en Afrique. C'est l'affaire de Fashoda au Soudan, entre autres. À ce moment-là, il se passe une chose très importante, complètement oubliée aujourd'hui, mais c'est la première fois qu'il va y avoir une démonstration conjointe des organisations ouvrières françaises et britanniques contre la guerre. Donc vous avez à ce moment-là une cinquantaine de délégués des syndicats français qui traversent la Manche et qui vont à Londres. Alors aussi bien des réformistes que des révolutionnaires, aussi bien des gens de la CGT que de la Fédération des Bourses du Travail, ils vont à Londres et là ils participent à un énorme meeting avec à peu près 10 000 travailleurs à Londres avec des syndicalistes britanniques. Et là, on proclame que le prolétariat des deux côtés de la Manche est opposé à la guerre et on remet sur le tapis cette question de la grève générale contre la guerre. C'est la première fois qu'on la remet sur le tapis avec ce sentiment d'urgence et l'idée que c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire. À la même époque, quelques mois plus tard, il y a un autre événement qui marque un tournant, c'est l'ultime congrès de la Fédération des Bourses. L'ultime congrès se tient en septembre 1901 à Alger. Et là, à ce congrès, la Fédération des Bourses décide de passer aux travaux pratiques en matière de propagande antimilitariste, antipatriote. Et la Fédération des Bourses confie le soin à son secrétaire de rédiger une brochure de propagande de masse pour aller dans ce sens. Le secrétaire de la Fédération des Bourses, c'est Georges Yvetot. C'est pas n'importe qui. C'est l'ancien bras droit de Fernand Pelloutier, c'est un anarchiste, haut en couleur, fort en gueule, quelqu'un qui n'a pas son drapeau noir dans sa poche. J'en parle beaucoup dans le bouquin parce que par la suite, il deviendra le champion du courant anarchiste au sein de la CGT. Et Georges Yvetot lui confie le soin de rédiger cette brochure qui va s'appeler Le Nouveau Manuel du Soldat. C'est une brochure qui a une importance exceptionnelle parce que quand vous la lisez, vous y trouvez la matrice de tout ce qui va être la phraséologie antimilitariste et antipatriote du mouvement ouvrier français pour les 15 années suivantes. Vous y trouvez toutes les formules. Contre l'armée école du crime, contre la caserne école de la soumission, contre les soudards galonnés, contre le bagne militaire de Biribi, où on envoie les soldats indisciplinés, où ils vont être victimes des sévices, des chaouches, les sous-officiers sadiques et alcooliques qui les maltraitent. On y dénonce la religion patriotique, la fiction patriotique, on y rappelle que les travailleurs n'ont pas de patrie, etc., etc. Et puis, à la fin de la brochure, on donne deux conseils aux jeunes ouvriers syndiqués. Et on leur dit, quand tu es appelé sous le drapeau pour effectuer ton service militaire, qui à l'époque dure 3 ans, tu as le choix entre deux solutions. Soit tu refuses de servir l'armée bourgeoise, tu désertes. Dans ce cas-là, tu passes la frontière, généralement tu te retrouves en Suisse ou en Belgique, et là tu recevras l'aide des syndicats frères de l'autre côté de la frontière. Soit tu ne désertes pas, tu vas à la caserne. Mais dans ce cas-là, ton devoir, en tant qu'ouvrier conscient, c'est de gagner le cœur de tes camarades de chambrée à la cause ouvrière et de les convaincre que sous l'uniforme, il reste un travailleur et qu'en aucun cas, ils ne doivent accepter de briser des grèves ni tirer sur leurs frères et sœurs ouvriers de ce côté ou de l'autre de la frontière. C'est la conclusion du nouveau manuel du soldat. Alors évidemment, c'est un brûlot totalement incendiaire, et quand le nouveau manuel sort, il est aussitôt attaqué en justice. Donc Georges Yvetot se retrouve dans le box des accusés, en cour d'assises, devant les assises de la Seine. La Seine, c'est le département qui existait à l'époque, qui regroupait Paris et sa banlieue. Il se retrouve devant le jury de la Seine avec 40 camarades, parce que 40 militants de la Fédération des Bourses ont demandé à être inculpés également, arguant que la brochure était une œuvre collective, ce qui n'était pas vrai, mais peu importe, il se retrouve 40 dans le box. Et là, coup de bol, le jury populaire acquitte Georges Yvetot. Et deuxième coup de bol, le parquet néglige de faire appel. Résultat, de ce fait, la brochure, le nouveau manuel du soldat, peut se trouver de bénéficier d'une forme d'immunité judiciaire qui va permettre qu'elle soit rééditée et rééditée et rééditée encore. J'ai compté au moins 16 rééditions jusqu'en 1914 et au moins 218 000 exemplaires distribués à l'époque. Ce qui est considérable, hein, surtout pour un brûlot de cette nature, dans un pays qui comptait à l'époque 30 à 35 millions d'habitants. Et c'est d'autant plus important, comme je vous le disais, que cette brochure est vraiment la matrice de toute la phraséologie antimilitariste, antipatriote du mouvement ouvrier de l'époque. Troisième chose qui se passe importante au tournant du siècle, c'est le congrès de la CGT de septembre 1900 qui se tient à Paris, et à l'occasion duquel la CGT décide de se doter d'une institution qui va s'appeler le Sou du Soldat. Alors qu'est-ce que c'est le Sou du Soldat? C'est une institution que les syndicats sont libres de créer. Il n'y a pas de caisse centrale ou fédérale, si vous voulez. Les syndicats sont libres de créer le Sou du Soldat. Généralement, c'est les syndicats les plus radicaux, les plus à gauche qui le font. Le Sou du Soldat, c'est une caisse de solidarité. C'est calqué sur une institution paroissiale catholique, en fait. C'est une caisse de solidarité. Vous versez une partie des cotisations dedans. Et quand vous avez un jeune syndiqué qui est appelé sous les drapeaux, eh bien, pour la durée de son service militaire, de temps en temps, on lui envoie un petit secours monétaire. Alors, d'une, ça permet d'améliorer l'ordinaire de la caserne, et puis ça permet de maintenir le lien entre le jeune homme et son organisation de classe. Et puis, également, souvent, et ça, c'est vraiment les syndicats les plus radicaux qui le font, on joint à ce petit secours monétaire une lettre circulaire dans laquelle on rappelle encore au jeune homme ses obligations d'ouvrier conscient, ne brise pas les grèves, refuse de tirer sur des frères et sœurs, etc., etc. Quand Sou du Soldat est créé, en septembre 1900, le gouvernement français n'y prête pas tellement attention. Mais vous allez voir que par la suite, à partir de 1911, ça va être le motif principal de répression de l'État contre la CGT, au titre de l'incitation de soldats à la désobéissance. Ça, c'est à peu près donc, vous voyez, le tournant qu'il y a au début du XXe siècle. Alors, il y a un moment dans l'année, la CGT, la Fédération des Bourses, qui fusionne en fait en 1902, il n'y a plus que la CGT. La CGT fait a des positions antimilitaristes, de façon générale, mais il y a un moment dans l'année qui est particulièrement propice pour faire vraiment de la propagande de masse à grande échelle sur cette question, et c'est en octobre, chaque année, pour l'appel de la classe. Alors qu'est-ce que c'est l'appel de la classe? C'est en fait, chaque année, l'appel d'une classe d'âge sous les drapeaux pour effectuer le service militaire. À l'époque, dans la France de l'époque, c'est un moment très important, hein, de rituel, de passage à l'âge adulte, si vous voulez, dans tous les villages de France. Les jeunes gens sont tout fiers, tout contents, ils reçoivent leur matricule militaire, ils font la fête autour de ça. Le poète Gaston Coutet, par exemple, un poète libertaire soloniaux, a écrit à l'époque un poème pour tourner en dérision cette tradition, un poème qui s'appelle « Les conscrits », où il les montre en train, ils fêtent leur matricule, ils vont prendre la glace et la Lorraine, ils boivent tellement qu'ils battent entre eux, ils vomissent, etc. Ils tournent ça en ridicule. Et à cette même période, en octobre, eh bien, les organisations révolutionnaires, c'est-à-dire les anarchistes, la CGT, mais même la gauche du PS, organisent des grands meetings, qu'on dit, c'est les meetings pour le départ de la classe, voilà. Meeting pour le départ de la classe, on invite tous les jeunes gens, les jeunes qui s'apprêtent à partir au régiment, à venir écouter les orateurs, où là encore, on va leur répéter, on va refaire des discours, leur rappeler leurs devoirs de classe. Ça, c'est donc à peu près le cadre et le contenu de ce que fait le mouvement ouvrier révolutionnaire à partir du début du XXe siècle sur la question du militarisme et du patriotisme. Alors maintenant, je vais sauter directement à l'étape suivante, vous expliquer un peu les difficultés qu'il y avait aussi dans le contexte international sur cette stratégie. 1905, c'est la première crise marocaine. Il faut savoir que la rivalité franco-allemande sur le contrôle du Maroc, c'est quelque chose qui marque toute l'époque et c'est un des rouages essentiels qui va mener à la Grande Guerre. Donc la 1905, c'est la première crise marocaine. L'empereur allemand débarque à Tanger, il y a toute une escalade diplomatique entre la France et l'Allemagne, et assez rapidement on se retrouve au bord de la guerre. À ce moment-là, le secrétaire de la CGT, Victor Griffel, saute dans le train de Berlin et va rencontrer ses homologues allemands pour les convaincre qu'il y a urgence à organiser des démonstrations conjointes contre la guerre, de la même façon qu'on l'a fait à Londres 4 ans avant. Le problème, c'est que quand Victor Griffel rencontre ses homologues allemands, il se heurte à un mur. Il se heurte à un mur et les dirigeants des syndicats allemands, qui sont en fait des dirigeants sociaux-démocrates, hein, les syndicats allemands sont un appendice du Parti social-démocrate, les dirigeants des syndicats allemands lui répondent en substance « Écoutez, nous, on ne comprend pas de quoi vous me parlez, on ne comprend pas vraiment même ce que vous faites là. Si vous voulez qu'on agisse ensemble, il va falloir qu'au préalable, votre Parti socialiste se mette d'accord avec notre Parti socialiste et là, ensuite, on pourra faire les choses ensemble. » Victor Griffel a beau leur expliquer qu'en France, la CGT n'a aucun lien avec le PS, que c'est une organisation concurrente et même rivale dans bien des domaines, les Allemands ne veulent rien entendre et Griffel doit reprendre le train de Paris, sévèrement bouché, et avec l'amère conviction que ça ne va pas être facile de mener cette stratégie de grève générale contre la guerre s'il n'y a pas de répondant de l'autre côté du Rhin. Ce sera une tendance lourde qui va peser pour toutes les années suivantes, alors même que la CGT, régulièrement dans les congrès internationaux, demandera l'inscription de cette question, la mise à l'ordre du jour de cette question de la guerre et de la grève générale, et que systématiquement les syndicats allemands et autrichiens refuseront d'en débattre au motif que c'est une question qui concerne le Parti socialiste. Bref, je saute à l'étape suivante. L'été 1911, c'est la deuxième crise marocaine. C'est le coup d'Agadir. Il y a une canonnière allemande qui arrive en rade d'Agadir. Il y a de nouveau une escalade diplomatique entre la France et l'Allemagne qui porte l'Europe au seuil de la guerre. À ce moment-là, la CGT, pour réussir à travailler quand même avec les Allemands, va mettre de l'eau dans son vin. Elle va mettre de l'eau dans son vin en acceptant pour la première fois de son histoire de collaborer avec le PS. Donc vous avez, par exemple, en août 1911, vous avez un grand meeting qui se tient à Paris, salle Wagram, qui est une des grandes salles des meetings ouvriers de l'époque. C'est 8000 auditeurs dans la salle. Hein. Et à la tribune, vous avez tout le gratin de la CGT qui est là, donc le secrétaire, Léon Jouot, le secrétaire de la Fédération des métaux, Alphonse Mérem, Georges Yvetot, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis vous avez des invités internationaux. Alors, vous avez un syndicaliste révolutionnaire néerlandais qui est là, vous avez José Negret, qui représente la CNT espagnole, qui a été fondée l'année précédente. Vous avez Tom Mann, qui est un représentant du syndicalisme révolutionnaire britannique. Et puis, vous avez des syndicalistes allemands. Et vous avez un député socialiste au Reichstag. Et vous avez un député socialiste français. C'est tellement incongru d'avoir un député socialiste à une tribune d'un meeting de la CGT à l'époque, que le président de séance est quasiment obligé de s'excuser auprès de l'auditoire en expliquant que c'est parce que les Allemands nous ont obligés. Quoi. Voilà, parce que sinon, c'était tellement incongru que les gens n'auraient pas compris. En tout cas, durant ce grand meeting, la CGT voilà, martèle les mots d'ordre, la grève générale contre la guerre, on la fera. Les Allemands restent toujours sur une position beaucoup plus ambiguë en s'en tenant aux formules du type les gouvernements bourgeois n'ont aucun intérêt à faire la guerre car la guerre déchaînerait la révolution, mais sans être plus précis en fait dans la menace. Grand meeting à Paris, par la suite il y a un grand meeting à Berlin, les syndicalistes français prennent le train de Berlin, ils font pareil énorme meeting à Berlin, il y a une délégation qui part en Espagne, parce qu'il y a aussi des rivalités avec l'Espagne à ce moment-là autour du Maroc. Voyage en Espagne qui est effectué par deux représentants de la CGT qui sont des anarchistes aussi, hein, Georges Dumoulin et François-Marie. Et leur voyage en Espagne d'ailleurs est intéressant parce qu'il dit quelque chose déjà à l'époque d'une certaine géographie politique de l'Espagne. Parce que quand ils vont faire le meeting à Madrid, ils parlent devant 10 000 personnes dans un meeting organisé par le Parti Socialiste Espagnol. Et quand ils vont à Barcelone, ils parlent devant 25 000 personnes dans un meeting organisé par les syndicats anarchistes. Et on voit déjà un peu cette dichotomie qui existe dès cette époque, en 1911, en Espagne. Bon, c'est assez marrant. Bref, il y a donc un fort mouvement de protestation contre la guerre. Il y aura aussi un énorme rassemblement à Paris avec 60 000 personnes sous la pluie. Bon, voilà, un des premiers grands rassemblements contre la guerre qu'il y a en France. Et la crise européenne, enfin la crise franco-allemande surtout, heureusement, se dégonfle. Hein, en octobre-novembre, elle se dégonfle, il y a une désescalade, et tout ça va se conclure par un accord, un troc colonial, en fait. La France tire son épingle du jeu, elle aura le contrôle du Maroc, l'Allemagne a un lot de consolation, Elle récupère des territoires au Cameroun. Donc, la crise se dégonfle. Mais l'alerte a été chaude. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très important pour la CGT. 1er octobre 1911, se tient un conseil national de la CGT, un conseil national des bourses et des fédérations. C'est pas comme un congrès, c'est quelque chose d'un peu plus restreint. Vous avez les secrétaires de fédération, les secrétaires de bourse. C'est à peu près 50-60 personnes qui montent à Paris pour discuter de sujets divers. L'un des sujets alors du jour, c'est la question de la guerre et de la grève générale. Cette séance-là est à huis clos. On n'en a aucun compte-rendu dans la presse bourgeoise ni dans la presse ouvrière. On ne sait ce qui s'est passé dans cette séance que grâce au rapport de police du Mouchard qui est imprimé. Lors de cette séance, Léon Jouot, le secrétaire de la CGT, demande, les yeux dans les yeux, à l'ensemble des délégués qui sont autour de la table, si demain nous nous trouvons de nouveau dans une situation de menace de guerre analogue, quelle est notre capacité aujourd'hui à réaliser, à faire la grève générale? Est-ce que vous pensez que dans vos fédérations, dans vos corporations, vous serez suivis sur ce mot d'ordre? Eh bien là, l'ensemble des délégués présents sont obligés de regarder leur godasse et de convenir qu'en l'état actuel des choses, sur ce mot d'ordre, ils ne seraient pas suivis. Ils ne seraient certainement pas suivis. Il n'y a que deux délégués qui protestent du contraire. Il y en a un qui ne compte pas beaucoup parce que c'est une toute petite fédération, c'est Postier. Il y en a un autre qui compte beaucoup. C'est une grosse fédération stratégique. C'est les mineurs. Et c'est même d'ailleurs un paradoxe parce que les mineurs sont une fédération dirigée par les réformistes. Et les réformistes, généralement, ils ne veulent jamais entendre parler de grève générale. Mais sur la question de la guerre, les mineurs adhèrent à la stratégie grève généraliste de la CGT. Et donc là, le délégué des mineurs dit, eh bien nous, dans notre corporation, je pense que nous serions suivis, je pense que nous avons fait suffisamment le travail de conviction, nous avons suffisamment labouré le terrain, et que nous serions suivis sur ce mot d'ordre, et même d'ailleurs, je ne peux pas vous en dire plus, mais nous avons déjà étudié les moyens de bloquer la production. C'est très bien, et les mineurs, c'est quand même une seule fédération sur les 50 que compte la CGT. Donc il faut retenir ça. Octobre 1911, la CGT sait qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Alors, dans ces cas-là, quand on est dans cette situation, qu'on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de sa politique, il n'y a que deux solutions. Soit on se dit, bon, on va changer notre fusil d'épaule, on va arrêter les enfantillages, puis on va trouver une autre stratégie. Vous pouvez imaginer d'autres stratégies. Le PS avait une stratégie d'opposition à la guerre qui reposait sur l'arbitrage international. Faire appel au tribunal international de l'AE pour régler les différends entre États. Bon, le PS croyait à ça. La CGT ne croyait pas du tout à la diplomatie bourgeoise. Elle croyait à l'action directe des travailleurs. Donc, la CGT va choisir la deuxième option, c'est-à-dire qu'elle ne va persévérer et décider de mettre les bouchées doubles en matière de propagande antimilitariste pour se préparer à une nouvelle épreuve du même genre. Donc vous avez en 1911 un branle-bas de combat au sein de la CGT où il y a des circulaires qui partent dans tous les sens, à toutes les bourses du travail, les syndicats, on leur demande de mettre en place des caisses dessous du soldat, on leur demande de redoubler l'activité dans la propagande antimilitariste, on leur demande, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de mettre en place un sous-comité de la grève générale. C'était une institution qui existait dans la CGT de l'époque. C'était des comités qui avaient pour rôle de faire la propagande de la grève générale, juste ça. Et il y a donc une effervescence comme ça à l'automne 1911 dans la CGT pour se mettre un peu en ordre de bataille pour mener la propagande antimilitariste. À l'époque, il y a un observateur du syndicalisme, quelqu'un de très avisé qui s'interroge, hein, parce qu'il y a tout un tas de débats donc à ce moment-là dans la CGT sur qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et il y a quelqu'un qui publie des articles très intéressants sur la question, c'est Émile Pouget. Alors Émile Pouget, peut-être que ce nom vous dit quelque chose, il est surtout connu pour avoir été l'animateur d'un journal anarchiste très influent dans les années 1890, qui était le Père Pénard, et puis il est connu pour avoir été un des pères du syndicalisme français et du syndicalisme révolutionnaire. Mais Émile Pouget, en 1911, il est retiré des affaires. Il est retiré des affaires, mais comme c'est quelqu'un d'assez brillant et qu'il a des antennes un peu partout, Il tient une chronique syndicale extrêmement bien documentée, très intéressante, toujours très pertinente, dans le plus grand journal d'extrême gauche de l'époque qui s'appelle La Guerre sociale. Et à l'automne 1911, Émile Pouget, il dit il est temps d'observer un peu ce qui se passe et de savoir où en est la CGT, et notamment où en est l'idée de grève générale au sein de la CGT. C'est une question qui n'est pas anodine, parce qu'il faut savoir que la grève générale, le grève généralisme, c'est le socle sur lequel s'est construit le mouvement ouvrier français depuis 20 ans à ce moment-là. Dans les années 1890, le débat sur la grève générale, c'était la pierre de touche de tout débat au sein du mouvement ouvrier. La grève générale, fallait être pour, fallait être contre, mais enfin, fallait avoir une opinion sur la question. C'était la question fondamentale, parce que c'est la ligne de démarcation, si vous voulez, entre ceux qui sont tenants d'un syndicalisme et d'un socialisme d'action directe, hein, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et ceux qui sont tenants d'un socialisme d'action indirecte, en quelque sorte, par l'action parlementaire. Et donc la CGT, en 1895, elle a été fondée sur une base grève généraliste. Émile Pouget, en 1911, demande où en est cette idée aujourd'hui. Il constate que cette idée, en 1911, n'est plus une idée motrice dans la CGT. Non pas que la CGT ait renié la grève générale, mais peut-être simplement que cette idée qui a été digérée depuis 10 ans, 15 ans, ce n'est plus une idée si nouvelle que ça, c'est pas ça qui excite les foules, quoi, et tout le monde est d'accord sur l'action de la grève générale, donc c'est plus une idée vraiment motrice qui fait avancer les choses. Par contre, ce que constate Pouget, c'est qu'il y a une autre idée, là, par contre, qui met vraiment en branle les énergies davantage, c'est l'antimilitarisme. Ça, l'antimilitarisme, par contre, c'est un truc qui marche très fort, et c'est corroboré par un rapport de police de l'époque qui constate que sur 150 bourses du travail affiliées à la CGT, il y en a environ 60% qui font une propagande antimilitariste constante. C'est considérable, surtout si on sait que ça va aller crescendo jusqu'en 1914. En tout cas, voilà, automne 1911, la CGT se met en ordre de bataille et relance, met les bouchées doubles sur la propagande antimilitariste. Je saute à l'étape suivante. Automne 1912, c'est la guerre des Balkans. La guerre des Balkans, c'est un des rouages très importants aussi de l'engrenage qui va mener à la Grande Guerre. Alors d'ailleurs, je vais me permettre de revenir un petit peu sur cet engrenage qui mène à la Grande Guerre. Je vous ai parlé du coup d'Agadir en 1911. C'est le rouage initial. Coup d'Agadir, rivalité franco-allemande, la France tire son épingle du jeu. Il y a un accord avec l'Allemagne, un troc colonial, en novembre 1911. Un mois plus tard, parce qu'il y avait un deal secret entre Paris et Rome, les Français avaient acheté la neutralité italienne dans l'affaire marocaine en leur disant « Laissez-nous les mains libres au Maroc, on vous laissera les mains libres en Libye ». Eh bien, un mois après le règlement franco-allemand, l'Italie envahit la Libye. C'est le deuxième rouage de l'engrenage, c'est la guerre de Tripolitaine. La guerre de Tripolitaine dure à peu près un an, les Turcs sont battus. Ça prend quelques mois aux Italiens d'occuper le terrain et de battre les Turcs. Ce que voyons, on arrive au troisième rouage de l'engrenage, ce que voyons, les États balkaniques, Serbie, Monténégro, Grèce, Bulgarie, constatent que leur ennemi principal, l'Empire ottoman, est à genoux et que c'est le moment ou jamais de l'attaquer pour s'emparer de la Macédoine. Et donc les États balkaniques, qui forment une ligue, qui est en réalité téléguidée par Saint-Pétersbourg, attaque l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est battu en 3 semaines avec une rapidité qui déconcerte toute l'Europe. En 3 semaines, les Bulgares assiègent les faubourgs d'Istanbul. À ce moment-là, il y a des menaces de guerre très importantes parce que l'Autriche-Hongrie n'est pas prête du tout à laisser les États satellites de la Russie s'emparer des Balkans de cette façon-là. L'Autriche-Hongrie mobilise ses troupes, la Russie mobilise ses troupes, on passe à deux doigts d'une guerre européenne. Heureusement, la crise se dégonfle. Cependant, on arrive à ce moment-là à une situation nouvelle, c'est le quatrième rouage de l'engrenage. L'Allemagne se sent plus isolée que jamais, parce que son allié ottoman est en miettes, son allié italien est aux abonnés absents, vu qu'ils ont attaqué les Ottomans, son allié autrichien apparaît comme le nouvel homme malade de l'Europe, particulièrement affaibli dans sa composante slave et dans les Balkans, Et puis l'Allemagne est entourée par deux pays qui ont noué un pacte de fer, qui sont la France et la Russie. L'Allemagne décide donc de se lancer dans la course aux armements et d'augmenter son armée de caserne de 180 000 hommes. Ce que voyant, la France se lance à son tour dans la course aux armements et décide d'augmenter son armée de caserne de 160 000 hommes. Et on arrive là à un des derniers rouages qui mène à la Grande Guerre. Je reviens à l'automne 1912. Alors que les Bulgares assiègent Istanbul, la Russie et l'Autriche-Hongrie sont à deux doigts d'entrer en guerre l'une contre l'autre. Si jamais Saint-Pétersbourg et Vienne entrent en guerre l'une contre l'autre, alors par le jeu mécanique des alliances, on sait que l'Allemagne entre en guerre, la France entre en guerre, et peut-être même la Grande-Bretagne. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc aussitôt, il y a un énorme mouvement de protestation contre la guerre dans toute l'Europe, orchestré par les partis socialistes, les syndicats, le mouvement ouvrier. Paris, Rome, Berlin, Vienne, Londres, partout, vous avez d'énormes rassemblements de protestation contre la guerre. Et à ce moment-là, l'EPS, enfin, l'Internationale Socialiste, décide de faire un grand coup assez spectaculaire en organisant un congrès international contre la guerre. Ce congrès va se tenir à Bâle, petite ville de Suisse, à la frontière franco-allemande. Aragon, d'ailleurs, dans les cloches de Bâle, raconte un peu ce qu'a été ce congrès de Bâle qui se termine, c'est une image un peu spectaculaire, qui se termine sous les voûtes de la cathédrale de Bâle, pavoisée de rouge, avec tous les plus grands orateurs du socialisme européen qui sont là, Jaurès, Bebel, etc., etc. Et les syndicats, tous les syndicats sociodémocrates affiliés à des partis socialistes sont là également. Donc c'est un gros événement. Et il faut voir que dans les semaines qui ont précédé, eh bien, la CGT française a subi de fortes pressions internes pour participer à ce congrès de Bâle. Mais la CGT va refuser d'y participer. La CGT refuse de passer sous les fourches caudines de la social-démocratie, et non seulement elle refuse de participer au congrès de Bâle, mais elle organise son propre congrès concurrent à Paris, en disant « Bâle, il y aura des parlottes pacifistes platoniques. Nous, nous allons faire bien mieux. Nous, nous allons mettre la classe ouvrière en action. » Et ça va être l'enjeu du congrès extraordinaire qui va être convoqué à Paris en novembre 1912, c'est d'organiser une grève générale préventive contre la guerre. C'est extrêmement important, c'est le crash test de la stratégie de la CGT contre la guerre. Alors ce congrès extraordinaire de Paris, en novembre 1912, il mérite qu'on s'y arrête deux secondes, parce qu'il en dit long sur l'habileté tactique des dirigeants syndicalistes révolutionnaires de la CGT de l'époque. Les années précédentes, la CGT avait essayé plusieurs fois de faire des grèves générales, ça n'avait jamais marché. Ça avait toujours été à peu près toujours un échec. Pour quelle raison? Parce que la plupart du temps, on décidait au comité confédéral, donc uniquement les dirigeants des fédérations, on décidait au comité confédéral de lancer la grève générale. Et puis, le mot d'ordre, il redescendait à la base de façon très, très inégale. Il y avait des fédérations qui relayaient le mot d'ordre de façon très conséquente. Je pense notamment à la Fédération du bâtiment, qui était la plus puissante, la plus combative, la plus révolutionnaire, et qui formait l'épine dorsale de la CGT de l'époque, qui était toujours en lutte, toujours en grève. On pouvait toujours compter sur eux, il n'y avait pas de problème. La Fédération des métaux, la Fédération de l'alimentation, toutes ces fédérations-là étaient assez combatives et relayaient le mot d'ordre. Mais vous aviez également des fédérations dirigées par les réformistes. Et eux, pas question de relayer un mot d'ordre de grève générale. Les fédérations dirigées par les réformistes, c'était notamment les mineurs, dont je vous ai parlé, le livre, et les fédérations stratégiques, les cheminots. Et puis il y en avait des plus petites, qui comptaient un peu moins, comme les employés, l'éclairage, etc. Donc, quand vous voulez organiser une grève générale qui marche, il va falloir réussir à contourner ces gens-là. Et comment mieux les contourner ? Qu'en organisant un congrès. Parce que dans un congrès, ce n'est pas les dirigeants des fédérations qui viennent. Enfin, ils sont là, mais il n'y a pas qu'eux. Ce n'est pas eux qui comptent. Dans un congrès, c'est les délégués des syndicats de base qui viennent. Et si vous organisez un congrès dont tout le monde sait que la question centrale va être l'organisation d'une grève générale, vous pouvez être sûr que les syndicats qui vont envoyer des délégués, c'est tous les syndicats les plus combatifs, les plus motivés, les plus remontés. Et c'est effectivement ce qui va se passer. C'est effectivement ce qui va se passer. Le congrès se tient les 24 et 25 novembre 1912 à la Bellevilloise, qui est une coopérative ouvrière à Paris 20e. La salle est pleine à craquer. Il y a plus de 500 délégués, les gens sont obligés de rester debout. Il y a encore plus de monde et de syndicats représentés que lors du congrès régulier qui s'était tenu 2 mois avant. Donc ce congrès est un énorme succès. Les quelques délégués réformistes essayent de s'opposer à la grève générale, mais ils sont chahutés, disons, et rapidement un peu réduits au silence. Et donc il y a une certaine fièvre dans la salle et la grève générale est votée par acclamation. Elle est votée par acclamation et on décide de l'organiser pour le 16 décembre 1912, 3 semaines plus tard. Alors pourquoi précisément le 16 décembre 1912 ? Eh bien parce que c'est un lundi. Et pourquoi un lundi ? Ça, c'est une petite finesse syndicaliste. C'est parce qu'en fait, à l'époque, chaque lundi, le taux d'absentéisme était plus élevé sur les chantiers et dans les usines, à cause de l'alcoolisme du dimanche. Donc quand vous faisiez une grève générale un lundi, vous amélioriez le score. Donc le congrès décide de faire la grève générale pour le lundi 16 décembre. Et donc l'ensemble des militants repartent dans leur région, remontés à bloc. Ils ont 3 semaines devant eux pour réussir le pari. Mais quand même, je vous rappelle le contexte. La guerre peut éclater d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Le contexte est donc extrêmement tendu. Le gouvernement français va faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les militants de la CGT de préparer cette grève générale. Donc ça veut dire des perquisitions, des arrestations de militants, il y a des menaces directes qui sont adressées contre les ouvriers, des manufactures et des arsenaux, où on leur dit si vous êtes absent le 16 décembre précisément, vous êtes révoqué. Hein, à l'époque, il n'y a pas de droit syndical pour les agents de l'État et les fonctionnaires. Il y a moins de droits que dans le privé, quoi, quasiment. Et puis, il y a même certains maires socialistes qui sont démis de leurs fonctions par des préfets parce qu'on estime qu'ils appuient l'organisation de la grève. C'est donc un contexte de répression et d'intimidation assez fort pour dissuader les militants de faire leur boulot. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, pas un militant n'ignore l'existence d'une liste noire des militants dangereux à arrêter en cas de guerre et donc à mettre en prison ou pire éventuellement au poteau d'exécution pour trahison nationale, si vous voulez. Cette liste noire des militants arrêtés en cas de guerre, c'est le carnet B. Le carnet B, c'est un truc qui a été révélé complètement par accident en mars 1912 lors d'un procès. Le procureur a sorti cette histoire de carnet B. Tout le monde s'est interrogé, qu'est-ce que c'est ? La presse d'extrême gauche a enquêté, a découvert le poteau rose. Il s'agit d'une liste noire, donc de tous les militants dangereux arrêtés. Le gouvernement n'a pas pu faire autrement que de reconnaître l'existence du carnet B, et donc c'est officiel, il existe. Alors, on apprendra bien des années plus tard que dans ce carnet B,